Tendre Père, merci pour cet après-midi. Merci pour ta présence dans ce temple et merci pour la grâce d'être dans ta présence et d'être à tes pieds pour être nourri et édifié par ta parole. Seigneur, nous n'avons aucune autre destination, aucun autre lieu où nous trouvons la force, l'énergie, le salut pour nos âmes, pour nos familles, si ce n'est auprès de toi. C'est pourquoi nous venons. Nous ne venons pas à un rendez-vous avec un homme, quel qu'il soit. Nous venons dans la présence du Dieu vivant, celui qui nous a créés, celui qui nous connaît, celui qui a notre destinée entre ses mains, celui qui conduit nos pas, celui qui a la capacité de relever celui qui est fatigué, celui qui relève la tête de celui qui est abattu, celui qui restaure ce qui est détruit, celui qui donne l'espérance là où il n'y a plus raison d'espérer. C'est devant toi que nous sommes venus. Fais-nous du bien ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde une fois de plus d'être à l'écoute de son esprit. Et nous allons partager la parole de Dieu en commençant par 1 Samuel chapitre 1. Je vais lire tout le chapitre. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Touf, Éphrasien. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Élie dit, et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et 1 outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que mon âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Une maman peut nous lire Proverbes chapitre 14, verset 1.
Proverbes chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains.
Alléluia.
Parole du Seigneur.
Amen. Le thème de cet après-midi est intitulé Les choix d'une mère qui préserve la stabilité de la famille. Les choix au pluriel d'une mère qui préserve la stabilité de la famille. L'histoire que nous venons de lire, beaucoup d'entre nous connaissons cette histoire, c'est l'histoire d'une famille qui fait face à un grand défi. Et dans cette famille, tout le monde ne fait pas face à ce défi de la même manière. Anne, épouse de Elkana, est dans cette famille la plus touchée, la plus affectée par ce défi. Et ce défi s'appelle la stérilité. Dans tous les ménages, il y a des défis. Dans tous les ménages, il y a des situations difficiles. Des situations difficiles qui menace la stabilité de la famille. Vous qui m'écoutez, vous êtes dans un ménage. Et si vous n'avez pas un défi dans votre ménage, il faut nous dire, probablement vous êtes déjà arrivé au ciel. Dans chaque ménage, il y a un défi. Oui, il faut nous dire, comme ça nous allons venir. Dans chaque ménage, il y a un défi. Et j'aimerais cet après-midi, alors que nous partageons l'histoire de Anne, sur l'histoire de Anne, que vous ayez dans votre cœur le défi qui est devant vous, le défi auquel votre famille fait face. Pour le cas de Anne, c'était la stérilité. Mais pour votre cas, ça peut être autre chose. Ça peut être la stérilité financière. Ça peut être une stérilité d'une autre nature. Ça peut être une menace quelconque, mais vous la connaissez. Le plus important, c'est que vous portiez dans votre cœur ou vous vous représentez dans votre cœur le défi auquel vous faites face dans votre famille. dans votre foyer. Anne fait face au défi de la stérilité. Comme vous et moi, nous faisons face à un défi. Mais bien-aimée dans le Seigneur, Anne a un mari qui l'aime. Son mari l'aime et son mari pourvoit. Chaque fois qu'ils vont faire le sacrifice, chaque année, son mari donne à Anne ce qu'il lui faut. C'est une famille qui n'est pas dans une crise financière. Non. Mais c'est une famille qui manque, dans laquelle la femme... La Bible ne dit pas si Anne était la première femme ou la seconde. On ne nous dit pas. Mais peut-être que Pénina est entrée dans cette famille parce qu'Anne n'accouchait pas. Vous voyez? Mais la Bible ne le dit pas. Bon, nous n'allons pas supposer ça. Mais c'est une possibilité. Mais toujours est-il que il y a des défis dans nos familles. Mais dans le cas de Anne, son défi est particulier. Parce que la Bible dit que la stérilité de Anne n'avait pas pour cause le péché. Anne n'avait pas péché pour se retrouver stérile. La stérilité n'était pas le fruit d'une malédiction. Non, ce n'était pas la malédiction. La stérilité de Anne n'était pas une attaque de l'ennemi. Non, ce n'était pas une attaque de l'ennemi. La Bible dit que la stérilité de Anne était causée par Dieu lui-même. Dieu a rendu Anne stérile. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, ce même Dieu qui a dit à Adam et Ève, multipliez, remplissez la terre. C'est le Dieu que Elkanah priait. C'est le Dieu que Anne adorait. Ce même Dieu-là, de la fécondité, a rendu Anne stérile. Il y a des défis dans nos familles qui sont la conséquence de nos péchés. Les péchés que vous avez commis vous ont entraîné dans les défis dans lesquels vous êtes. Il y a des défis dans nos familles qui sont le fruit de l'activité de l'ennemi, des démons, de Satan. Et il y a des défis dans nos familles qui sont tout simplement causés par Dieu. Anne n'était pas la seule à se retrouver dans cette situation. Job a connu ça. La misère de Job était causée par Dieu lui-même. Oui. Lazare était tombé malade et Lazare est décédé. La maladie dont Lazare souffrait, ce n'était pas un microbe qui avait causé ça. C'était Dieu lui-même. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 4, vous pouvez lire ça. C'est Jésus lui-même qui dit la cause de la maladie de Lazare. Et même la mort de Lazare, c'est Dieu lui-même qui a laissé Lazare mourir. Dans Jean chapitre 9, verset 1 à 3, on nous parle de l'histoire d'un aveugle. Un aveugle de naissance que Jésus a guéri. L'aveuglement de cet homme n'était pas la conséquence d'un péché. Les disciples ont même posé la question à Jésus. Qui a péché dans sa famille pour qu'il soit aveugle? Jésus dit, personne n'a péché. Mais il est aveugle. Dieu l'a gardé aveugle pendant des années. Tout simplement parce que Dieu avait rendez-vous avec cet homme-là à un moment précis. Alléluia. Pour un rendez-vous d'un jour, un jour seulement, Dieu le garde aveugle pendant des décennies. Juste pour un rendez-vous d'un jour. Nous allons rencontrer des gens au ciel qui auront des histoires à nous raconter. Il ne faut pas rater le ciel. Alléluia. Oui, oui. En tout cas, nous aurons l'éternité pour écouter les histoires de chacun. Moi, j'aimerais rencontrer cet homme. Oui. Et Anne est restée stérile parce que Dieu a causé la stérilité. C'est ce que la Bible nous dit au verset 5. L'Éternel avait rendu Anne stérile. Je commence par là, bien-aimé, pour nous donner un avertissement. Il y a une hérésie dans notre monde d'aujourd'hui. Et cette hérésie se résume comme ceci. Un problème dans votre famille égale Satan. Et la prospérité égale Dieu. C'est ça l'hérésie. Tout problème qu'il y a dans votre famille, c'est Satan. Et toute prospérité égale Dieu. C'est une hérésie. Il n'y a pas de fondement biblique à ça. Ésaïe chapitre 45, le verset 7. Voici ce que la Bible dit. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu. Ici, je ne vais pas interpréter. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. C'est Dieu qui parle. La stérilité dans le foyer de Anne n'était pas la faute de Anne. Ce n'était pas la faute de son mari Elkana. Ce n'était pas la faute de ses parents, ni de ses beaux-parents. Ce n'était pas la faute du sorcier de leur quartier, même s'il y en avait. Ce n'était pas sa faute. La stérilité de Anne, c'était l'emballage du cadeau que Dieu lui réservait. Et ce cadeau s'appelle prophète Samuel. Dieu avait pour Anne un cadeau, un beau cadeau, emballé ou mal emballé, entre guillemets. Un beau cadeau mal emballé. Une bénédiction emballée dans la douleur. Un enfant prophétique emballé dans la stérilité. Alléluia. Il est possible que votre défi soit un emballage d'une bénédiction que le Seigneur a pour vous. Faites attention à ce que vous dites à propos de vos défis. Je ne dis pas ici que tous les défis sont des emballages. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Mais comment faire la différence entre un défi qui est causé par Dieu, un malheur qui est causé par Dieu, une situation difficile qui est causée par Dieu? Comment faire la différence entre un tel défi et un défi qui est causé par le diable ou par vous-même? La réponse est simple. Rien ne remplace la prière. Rien. Dans la prière, Dieu donne le discernement. C'est dans la prière que vous saurez quelle est la raison pour laquelle je traverse ce que je traverse. Oui, la réponse n'est pas ailleurs. La réponse se trouve dans la présence de Dieu. Les disciples, à un moment donné, se sont retrouvés devant des démons qu'ils n'ont pas pu chasser. Et Jésus leur a dit, « Vous n'avez pas pu vaincre ces démons parce que ces démons, c'est par la prière et le jeûne qu'ils partent. » Alléluia. Donc, ça veut dire que pour les chasser, il fallait d'abord avoir la révélation de ceux qui tourmentent les personnes qui étaient tourmentées par ces démons. Et la révélation vient dans la prière. Et Anne, Dieu merci pour Anne, parce que Anne a fait le choix d'aller chercher l'Éternel dans la prière. Alors, qu'est-ce que maman Anne a à nous apprendre sur les choix d'une épouse ou d'une mère? Des choix qui préservent la stabilité de la famille. Le premier choix qui préserve la stabilité de la famille, le choix d'une mère, le choix d'une épouse qui préserve la stabilité de sa famille, qui fait que malgré le défi, la famille ne s'écroule pas. Au contraire, la famille se maintient et même la famille se relève du défi. Le premier choix, c'est le choix de ne pas se contenter de vivre dans le naturel. C'est le premier choix. C'est le choix que Anne a fait. Anne est stérile. Naturellement, elle ne peut pas accoucher. C'est comme ça. Quand vous êtes stérile, vous ne pouvez pas accoucher. Il n'y a pas de solution naturelle pour sa situation. Elle pouvait aller chez les médecins. Elle pouvait consulter comme elle voulait. Il n'y avait pas de solution naturelle à son problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation pareille? Le défi devant lequel votre famille se trouve,
Les psychologues ont échoué. Les psychiatres ont échoué. Les médecins ont échoué. Les conseillers financiers ont échoué. Votre patron a échoué. Le syndicat a échoué. Le gouvernement a échoué. Le conseil de famille a échoué. Les amis de votre mari ont échoué. Les voisins ont échoué. Il n'y a pas de solution naturelle. Alors Anne pouvait se dire, bon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Anne a dit, moi j'irai chercher Dieu dans la prière. Je ne veux pas me contenter de ce qui est naturel. Je ne veux pas me contenter de vivre dans ce qui est naturel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses naturelles, il y a des choses naturelles que Dieu donne à certaines personnes naturellement. Il y a des choses naturelles que Dieu ou que les gens obtiennent naturellement. Vous avez fini vos études, vous avez eu votre diplôme, vous allez postuler et vous êtes sélectionné pour le test, vous passez le test, vous réussissez, interview, allez, vous êtes embauché, n'est-ce pas? Oui, et vous avez trouvé le travail. Et vous avez connu ça, vous arrivez à l'église, vous trouvez des gens en train de prier, en train de chasser l'esprit de chômage. Vous vous posez la question, mais ça c'est quoi? Est-ce que le chômage aussi c'est devenu un démon? Non, il faut étudier, puis postuler, puis vous trouvez du travail. Parce que c'est comme ça que vous avez trouvé du travail, naturellement. N'est-ce pas? Ah oui, vous vous mariez, après le mariage, lune de miel, avant la fin de la lune de miel, vous concevez, 9 mois après, à l'hôpital, vous accouchez, 2 jours après, vous êtes à la maison, tout va bien, et vous arrivez, vous entendez des sujets de prière, ah Seigneur, interviens, mais comment? Est-ce que pour ça aussi, il faut jeûner? Parce que vous êtes allé, vous vous êtes marié, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez accouché, vous êtes rentré à la maison, oh, tout va bien, c'est normal. Il y a des choses naturelles que Dieu permettra à d'autres personnes de recevoir naturellement. Ils vont recevoir ça naturellement. Mais ces mêmes choses, pour vous, pour les autres, c'est naturel. Pour vous, malgré votre onction, malgré votre consécration, malgré votre dévotion, pour vous, ce n'est pas naturel. Pénina a eu ses enfants naturellement, des fils et des filles. On ne dit même pas le nombre. Mais Anne, pour avoir un seul fils, compliqué. Oui. Elle pouvait penser que Dieu est le Dieu de Pénina. Très compliqué. Dieu permet que les autres reçoivent naturellement, sans histoire. D'ailleurs, ils ont même de la peine à rendre grâce. Quand on dit rendons grâce à Dieu, il manque à dire. Parce que c'est naturel. C'est naturel. Il y en a qui se plaignent, je viens du boulot, je suis trop fatigué. Et le chômeur le regarde et dit, ah Seigneur, donne-moi la grâce aussi d'être fatigué. Je veux aussi être fatigué. Pour vous, c'est naturel. Mais à d'autres, c'est naturel. Mais pour vous, Dieu choisit de vous les donner de manière surnaturelle. Pourquoi Dieu permet que moi je reçoive de manière surnaturelle ce que les autres reçoivent de manière naturelle? Pourquoi? Est-ce que c'est injuste? Non, ce n'est pas injuste. Qui es-tu pour traiter Dieu d'injuste? Est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu sais de la justice de Dieu? Pourquoi pour moi ça doit être compliqué? Pourquoi pour moi les intercesseurs doivent se réunir? Pourquoi ça ne peut pas venir naturellement? Oui, une distance de 11 jours, Dieu en fait 40 ans. Pour les autres c'est naturel, mais pour moi, Dieu choisit de me le donner de manière surnaturelle. Pourquoi? Parce que l'agenda de Dieu pour vous, il est glorieux. Ça n'a rien à voir avec le arrêter de blâmer les gens. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Cela a à voir avec ce qui va arriver. Voilà. C'est ça qui se passe dans le cas de Anne et peut-être dans le cas de certains d'entre nous ici. Chère maman, vous pouvez accoucher d'un enfant naturellement, n'est-ce pas? Mais accoucher d'un prophète, ce n'est pas un processus naturel. Alléluia. Si vous voulez avoir un enfant et que vous êtes enceinte, allez à la maternité, vous allez accoucher. Mais un prophète, on l'enfante pas dans la maternité, mais dans la présence de Dieu. Pourquoi Dieu ne me donne pas naturellement ce que les autres ont naturellement? C'est parce que ce que Dieu a pour toi, c'est surnaturel. Est-ce que tu veux quelque chose de surnaturel? Demande un peu à ton voisin. Est-ce que tu veux une solution naturelle ou une solution surnaturelle? Est-ce que tu veux seulement un enfant ou bien tu veux un prophète? Est-ce que tu veux seulement une cérémonie de mariage ou bien tu veux un mariage épanoui? Alléluia! Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui ne veulent que cette alliance ici. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent seulement porter l'alliance. Ils veulent seulement que dans le quartier, ou bien quand on va adorer à l'église, hallelujah, qu'on voit l'alliance. C'est ça seulement qu'ils veulent. Rien d'autre. Ils veulent seulement ça. Mais ce que Dieu est en train de te préparer, c'est un havre de paix. Avec ou sans alliance. C'est ce que Dieu te prépare. Et les choses naturelles que Dieu décide de te donner de manière surnaturelle, on ne les obtient pas dans un lieu naturel. On les obtient dans la présence de Dieu. Alléluia. Anne a fait le choix d'aller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le choix de ne pas vivre dans le naturel. Deuxième choix. Anne a fait le choix de résister et ou de ne pas s'exposer aux paroles méchantes. 1 Samuel chapitre 1 verset 6, la Bible dit que sa rivale lui prodiguait des mortifications. Avec quel but? Pour la porter à s'irriter ou à se fâcher contre l'Éternel qui l'avait rendue stérile. C'était ça l'objectif de Pénina. C'était ça l'objectif. Pénina l'insultait, se moquait d'elle. La Bible parle de mortification. Une mortification, c'est une douleur. Oui, ce n'est pas une bénédiction, même si ça sonne mortification. Non. C'est une douleur. Quand Anne passe, elle dit, hey, vous l'avez vu, elle tient encore dans ses foyers. OK, il y a vraiment des gens patients. Hein? Hey. Quand dans la cour, tous les enfants sont en train de jouer, Anne veut passer et dit, hey, s'il te plaît, petit garçon, tu peux m'amener. Hey, hey, qui? Qui? Tu envoies qui? Accouche ton propre enfant que tu vas envoyer, pas le mien. Des mortifications, des gens qui te rappellent, des gens qui te rappellent. Vous êtes dans une situation difficile et vous voyez des paroles qui vous rappellent à quel point votre situation est difficile. Mais vous le sentez déjà. Mais non, on vous le rappelle encore que votre situation est vraiment, vraiment, c'est trop difficile. Donc c'est comme un couteau qu'on remue dans la plaie. Oui. Et vous les écoutez tous les jours. Parfois c'est dans un regard. Vous arrivez quelque part, les gens étaient en train de parler. Quand vous arrivez, la conversation s'arrête. On attend que vous passiez. Et quand vous passez, ça recommence. Et parfois, vous sentez les sourires derrière vous. Vous vous posez la question, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que... Mortification. Anne a connu ça. Pas un jour, pas deux jours. La Bible dit des années. Que le Seigneur ait compassion de vous. Que le Seigneur vous donne la force. Si c'est ce que vous ressentez, que le Seigneur vous accorde la grâce de tenir comme les enfants d'Israël dans le désert. La Bible dit que leurs souliers ne se sont pas usés. Que le Seigneur te donne la force de tenir dans le désert. Qu'il t'envoie sa manne afin que tu ne meures pas. Que tu restes vivant ou vivante et que tes ennemis contemplent la réponse du Seigneur. Et qu'il change d'avis sur vous, qu'il change de narratif, que le Seigneur te préserve, qu'il déjoue tous les pronostics. Alléluia. Parce que tu as fait le choix de rester dans sa présence et de ne pas écouter les paroles de Pénina. Le but de ces paroles, c'était de souiller Anne, souiller. Kumuchafuaro, c'est ça, souiller. Créer l'amertume dans son cœur. Est-ce que vous savez que l'amertume peut vous éloigner de Dieu? Est-ce que vous le savez? L'amertume, dans l'amertume, il y a le mot amer, amer. Quand vous regardez votre situation, vous avez l'impression qu'il y a la quinine dans votre bouche. C'est ça l'amertume. Vous voyez cette personne, vous ne la détestez pas, mais quand vous la voyez seulement, votre cœur fait mal. Ça fait mal. C'est comme si votre cœur saignait. Ça fait mal. Vous vous dites même, je l'ai déjà pardonné, mais je ne veux pas me retrouver sur un même banc avec lui à l'église. Parce que vous êtes amer. C'était ça l'objectif de Pénina. Causer l'amertume. Mettre Anne en conflit avec son Dieu. Parce que la Bible dit que les mortifications de Pénina, c'était pour irriter Anne, causer l'irritation, la colère. Que Anne puisse se rebeller contre Dieu dans sa souffrance. Que Anne puisse dire, Seigneur, tu ne mérites plus d'être mon Dieu. Si vraiment tu es mon Dieu, comment je peux vivre ce que je vis? Que tu te décourages, que tu laisses tomber et que tu sois ainsi vulnérable à toutes les solutions alternative de l'ennemi. Vous voyez? C'est ça l'objectif. L'objectif de cette mortification, c'était de ôter la foi. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire. Ôter la foi. C'est ça la première chose que l'ennemi vient, veut opter dans nos vies. L'ennemi, ce qu'il cherche, c'est que lorsque nous sommes accablés par cette douleur, que nous ne cessions de croire que Dieu peut faire quelque chose. Que vous puissiez croire que la main de l'Éternel est trop courte pour agir. Or, lorsque la foi nous est ôtée, vous savez ce que c'est que la foi. La Bible dit ceci, Éphésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce. Maintenant, Paul ajoute, il dit, par le moyen de la foi. Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherche. Donc, si on t'enlève la foi, ça veut dire qu'on t'a coupé le bras. Ce bras-là dont tu as besoin pour saisir la grâce de Dieu, pour recevoir son exaucement. C'est par la main de la foi. La grâce de Dieu peut être là. L'exaucement peut être là. Mais si tu n'as pas la foi, elle va atterrir où, cette grâce? Alléluia. Et Pénina mortifie Anne jusqu'à ce que Anne va dire, Basi binaish, hakuna tena kitu, je rentre chez mes parents. N'est-ce pas? Et quand tu rentres chez tes parents, comment tu auras l'enfant? Comment tu auras l'enfant? Que Dieu préserve les mamans. Alléluia. Troisième choix de Anne. Le troisième choix. Nous avons dit que le premier choix, c'est quoi? Le choix de ne pas vivre, le choix de ne pas se contenter de vivre le naturel. C'était le premier choix. Le deuxième choix, c'est quel choix? Le choix de résister aux paroles méchantes. Résister aux paroles méchantes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prêtons pas nos oreilles à tout. Aïe, aïe, aïe. Hier, nous avons parlé de Ève. Il aurait seulement suffi que Adam ou Ève, quand le serpent commence, est-ce que Dieu a vraiment dit, papa, arrête-toi d'abord là où tu as commencé là. Arrête, arrête. Oh, je voulais seulement... Non. Un aîné dans la foi m'a dit ceci. Il a dit, Abel, même s'il est midi, tu es sous un soleil accablant et que le diable te dit, il fait jour, réponds non au nom de Jésus. Oui. Refuse. Même si tu vois qu'il est jour, tu es sous un soleil accablant à midi et le diable te dit, il fait chaud, il fait jour, c'est le jour. Refuse, dis non au nom de Jésus. Voilà. Oui. Parce que tu as affaire à quelqu'un qui n'a pas d'égal en matière de ruse. Il est plus âgé que toi. Ah oui? Il a plus d'expérience que toi. Ne prêtons pas nos oreilles à n'importe quoi. Vous êtes en train de traverser un défi sérieux dans votre famille. Alors vous recevez des amis qui arrivent à la maison. Ah là, on commence à parler. Ah vraiment, c'est vrai, c'est ça qui est arrivé. Ah oh, oui. Comment il peut faire ça, vraiment? Est-ce que ça c'est un mari? Un mari qui t'aime vraiment peut faire des choses comme ça. Et il est chrétien. Ah vraiment? Hey! Non! Le monde est devenu méchant. Voilà. Et vous êtes là, vous contemplez. Oui, oui. Et ça continue. Ces paroles sont en train de vous souiller. Ça sème en vous l'amertume, la haine. Oui. Et parfois même, ce sont des paroles méchantes qui se concluent par la prière. Oui. On parle de toutes les choses méchantes sur votre mari, sur vos enfants, sur vos parents, sur votre... Allez, on clôture ça. Bon, on ne va pas partir comme ça, on va prier. Oui. On couronne ça. C'est comme une plaie puante sur laquelle on met un bandage très propre. Oui. C'est comme ça que le monde est. Et il y a beaucoup de pénines autour de nous. Que Dieu t'accorde la force de te séparer de pénina. Quand elle arrive chez toi, elle frappe. Tu dis bonjour ma soeur, bonjour. On peut prier, oui, commençons par prier. Elle commence la conversation, tu dis écoute, aujourd'hui, tu peux d'abord me dire ce que tu as médité avant qu'on commence à parler de mon problème. Parlons d'abord de ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui. Oui, commençons d'abord là. Faites ça, vous allez voir. Faites ça une fois. Et puis mercredi, quand elle vient, tu fais ça encore. Si c'est une pénine, elle ne va plus venir. Essayez. Vous avez déjà essayé. Essayez, vous allez voir. C'est comme ça qu'on se débarrasse des pénines dans notre vie. Oui. Troisième choix. Anne fait le choix de multiplier les paroles. Multiplier ses paroles, mais pas n'importe où. Dans la présence de Dieu. Plutôt que dans la compagnie de ses amis. Ça, maintenant, ce sont les paroles de Anne elle-même. Vous voyez? J'ai d'abord parlé du choix de ne pas s'exposer aux paroles des autres. Mais maintenant, elle fait aussi le choix elle-même de ne pas multiplier les paroles en dehors de la présence de Dieu. Quand Anne allait dans la maison de l'Éternel pour plaider sa cause, est-ce qu'elle était accompagnée? Oui? Qui accompagnait Anne dans la présence de Dieu? Personne. Elle allait seule. Et c'est probablement la raison pour laquelle elle a décidé de ne plaider sa cause à personne d'autre. Ben oui. Si elle n'est pas disposée à t'accompagner dans la présence de Dieu, alors elle ne mérite pas que vous lui exposiez votre problème. Je répète ça. Si elle n'est pas disposée, si elle n'est pas prête, chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, tu vas seul. Eh bien, quand tu vas rencontrer cet ami, cette sœur, tais-toi. Anne allait seule. Est-ce qu'elle n'avait pas d'amis? Probablement. Probablement, elle avait des amis, des personnes à qui elle pouvait partager. Mais non, elle a constaté que moi, quand je vais plaider ma cause devant Dieu, vers celui qui a la solution, où sont mes amis, celles qui prétendent m'aimer? Elles sont où? Mais quand c'est dans les mosquées, ah là, elles sont nombreuses. Oui. Non, non. Je plaiderai ma cause devant l'Éternel, seul. Je lèverai mes yeux vers les montagnes, parce que c'est de là que me viendra le secours. Que le Seigneur te donne la force, la maîtrise de soi. Que tu aies la force de maîtriser ta langue et de ne pas commencer à raconter partout. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui écoutent votre histoire n'ont pas pour vous de la compassion. Ah oui, oui. Tous ceux à qui vous partagez votre histoire ou vos problèmes ou vos défis, hein, les problèmes de votre famille, toutes ces personnes-là n'éprouvent pas pour vous de la compassion. Et d'ailleurs, ils ne prient même pas pour vous. Et quand ils disent qu'ils prient pour vous, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, peut-être que tu allais même les détester. Garde tes paroles, garde tes paroles. Garde tes paroles pour la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas protéger ta famille. Tu vas préserver ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quatrième choix que Anne a fait. Anne fait le choix de ne pas méditer la vengeance dans son cœur. Non, non. Elle fait le choix de ne pas méditer la vengeance. Parce que, en fait, quand nous traversons des moments difficiles dans nos familles, il y a des gens qui se réjouissent, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui sont contents. Et si jamais vous avez la malheureuse expérience d'écouter ou d'identifier ces personnes, ou d'écouter ce qu'ils sont en train de dire, c'est extrêmement difficile. Et je prie que le Seigneur nous donne la force de ne pas méditer la vengeance dans nos cœurs. Et parfois, nous méditons la vengeance même dans nos prières. Nous avons des prières vengeance. Des prières vengeance. Ô Seigneur, exauce-moi. Je suis fatigué de ces moqueries. Qu'ils sachent que je ne suis pas n'importe qui. Non, Seigneur, je suis fatigué. Vous priez, mais dans votre cœur, vous attendez, vous préparez à sourire et à rire de vos ennemis. Vous êtes prêt dans votre cœur. Oui, vous êtes en train de méditer la vengeance. Anne a fait le choix de ne pas méditer la vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 20, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas avec votre vengeance. Votre vengeance, ce n'est pas la justice de Dieu. Non, c'est la vengeance de Dieu. C'est la manière dont Dieu va vous venger. C'est ça qui constitue sa justice. Et il y a des personnes que Dieu a décidé de venger après leur mort. Il y a un homme qui vous fait du mal ou une femme qui vous fait du mal. Une personne qui est responsable des difficultés que vous vivez dans votre famille. Dieu attend de vous venger après votre mort. Oui, oui. Dieu vous prive de voir la vengeance qu'il réserve pour vous. Parce que Dieu a décidé dans sa justice que c'est ça qui est bon. Donc, faites attention. Et il y a même des gens que Dieu a décidé de pardonner. Oui, dans sa souveraineté. Donc, c'est pour dire que ça ne sert à rien de méditer la vengeance. Tu risques d'être en train de demander à Dieu de punir quelqu'un que Dieu a déjà pardonné. Vous voyez? Qui sera ridicule à la fin? Mais c'est vous! Mais c'est vous qui serez ridicule. Dieu n'a pas besoin de votre permission pour pardonner votre adversaire. Non, ce qu'il m'a fait, c'est trop dur. Non. Lui, vraiment, non. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, même si vos péchés sont... Il n'y a personne qui est vivant que Dieu ne peut pas sauver. Non. Parce que la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc, même ces méchants-là, que vous croyez responsable de votre instabilité familiale, même cette femme-là qui a couché avec votre mari, Dieu n'a pas besoin de votre permission pour la pardonner. Et il est possible que le Seigneur la pardonne et la remplisse du Saint-Esprit et la transforme en une servante de l'Éternel. Le Seigneur peut lui donner la grâce d'être l'enseignant ou la directrice de vos enfants. Le Seigneur peut lui accorder la grâce d'être ministre dans votre secteur. Dieu n'a pas besoin de votre permission. Ne méditez pas la vengeance. Alléluia. Quand vous ressentez la vengeance dans la présence de Dieu, avant de demander à Dieu l'exaucement, demandez au Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi d'abord de cette amertume. Guéris-moi d'abord de cet esprit de vengeance. Restaure-moi, sonde-moi. Je ne veux pas rester souillé dans ta présence. Remplis mon cœur de ton amour. Bien-aimé, ça c'est un amour qui n'est pas naturel. Cet amour pour nos ennemis, ce n'est pas un amour naturel. Un amour pour quelqu'un qui te mortifie, ce n'est pas un amour naturel. L'amour naturel, c'est une réponse aux bonnes choses qu'on reçoit. L'amour pour nos ennemis, ce n'est pas un amour naturel. Qui veut que Dieu lui donne cet amour? Levez la main. Vous voyez? Il y en a qui hésitent. Oui, il y en a qui hésitent. Il y en a qui se disent, venge-moi d'abord, Seigneur, et puis mets-moi cet amour. N'est-ce pas? Ce n'est pas un amour naturel, mais ça peut être le chemin de ton exaucement. Ça peut être le chemin vers ton Samuel. Ça peut être le chemin vers ton Samuel. Ça peut être le chemin vers le prophète que tu n'as pas demandé, mais que Dieu te prépare. Alléluia. Cinquième choix, c'est le choix de la douceur. Alléluia. Le choix de la douceur. Le choix de la douceur. Lorsque vous regardez le discours que Anne tient, même le serviteur du Seigneur, Élie, il regarde Anne en train de prier dans le temple. C'est une femme stérile. C'est une femme victime des moqueries de sa rivale. C'est une femme qui vient plaider sa cause devant le Seigneur depuis plusieurs années. Et le serviteur de l'Éternel est témoin que ça, c'est une victime. Et il la regarde. À un moment donné, il dit non, non. Ce dossier ici a déjà franchi un pas. Là, là, elle doit être ivre. Cette façon de prier là, non, 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 non. Non. Ça, c'est l'ivresse. Le serviteur de l'Éternel, à un moment donné, lui-même, il manque le discernement. En fait, lui-même, il ne porte même pas le fardeau. Il ne porte pas le fardeau. Et parce qu'il ne porte pas le fardeau, il ne comprend pas la réaction à la douleur. Il ne comprend pas. Il regarde dans sa théologie. Est-ce qu'une prière peut s'exprimer comme ça? Il ne voit rien. Mais parce qu'il ne porte pas le fardeau. Lorsque tu portes le fardeau de quelqu'un, même lorsque tu ne comprends pas ses réactions, tu vas te taire. Tu ne vas pas qualifier ce que tu ne comprends pas. Combien d'enfants de Dieu qualifient ceux qui ne comprennent pas? Angali gizi konom, angali, 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 angali. Ushon, unon, il, aizi kwa rom tagatif. C'est ça, Élie. Tel que moi, je connais Dieu. Non, j'ai 30 ans, j'ai marché avec Dieu pendant 30 ans. Et j'ai vu des gens. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Elle a bu. Elle a bu. Pourquoi? Parce qu'il ne porte pas le fardeau de sa brebis. La Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez-les. Ne les qualifiez pas. Portez-les. Vous serez plus sage si vous portez les fardeaux des autres. Ça vous rendra sage si vous les portez. Anne n'est pas comprise. Elle n'est pas comprise. Elle est intercesseuse, mais on l'appelle ivrogne. Ça fait mal. Ça fait mal. Elle devait être blessée. Elle n'est venue que chercher la présence, la face de Dieu. Mais on la qualifie de perverse. Ça fait mal. Celui de qui tu étais supposé recevoir le soutien, celui sur qui tu pouvais compter, c'est lui le premier à te tenir des propos blessants. Ça fait mal. Mais dans sa douleur, vous voyez, déjà elle est stérile. Rien que ça, même si autour de toi on t'aime, mais quand tu es stérile, ça fait mal. Même si on t'aime, vous voyez, ça fait mal. Bon, elle a la douleur de la stérilité. Un, premier niveau de la douleur. Maintenant, la douleur de sa rivale. Deuxième niveau. Là où elle pouvait aller se réfugier dans le temple. Allez, coup de grâce. Troisième niveau de la douleur. Voyez, il y a des gens qui souffrent dans leur famille. Et ils se disent, je vais aller à l'église. Et c'est à l'église, que la douleur monte au niveau 3. Combien de frères et sœurs n'avons-nous pas perdu ici? Parce que nous avons manqué de maîtrise de soi. Ils sont venus ici parce qu'ils cherchaient la face de Dieu. Ils espéraient que le Seigneur va se révéler à eux. Mais en arrivant ici, ils atterrissent dans le ministère. Et c'est dans ce ministère-là qu'on les enfonce dans la douleur. Que le Seigneur préserve Gomaville. Que nous soyons une église qui porte les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Et qu'ainsi le Seigneur accomplisse sa promesse à notre gare. Anne ne réagit pas à la douleur avec des paroles méchantes. Non. Écoutez ce qu'il dit à son pasteur. Écoutez ce qu'elle dit. Je vais lire ça. Écoutez ce qu'elle dit. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, pasteur. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et lorsque Élie réalise qu'il s'est trompé, gloire à Dieu pour Élie, un serviteur de Dieu repentant. Lorsque Élie réalise qu'il s'est trompé, la Bible dit, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Lèvons-nous, s'il vous plaît, nous voulons prier. Faisons le choix, bien-aimés, dans le Seigneur. En tant qu'Église, en tant que voisin, en tant que sœur, en tant qu'épouse, faisons le choix qui va préserver nos familles. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce soir. Oh, c'est devant toi que nous voulons répandre nos cœurs. Pas devant un homme, quel qu'il soit, quelle que soit sa connaissance, son expérience, son onction. C'est devant toi, Seigneur. Pierre disait, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est devant toi, Seigneur. C'est toi qui nous venges. C'est toi qui as la réponse. C'est toi qui as le Samuel, le prophète que nous attendons, que nous n'avons même pas demandé. C'est toi qui es capable de nous donner au-delà de ce que nous pouvons espérer. Tu as donné à Anne plus qu'un enfant, tu lui as donné un prophète. Oh Seigneur, donne à nos familles au-delà de ce que nous espérons, au-delà des choses que seul Dieu peut faire, des choses que lorsque les hommes verront, ils diront, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu. Préserve nos cœurs, sanctifie nos cœurs, ôte l'amertume, ôte la haine, ôte la vengeance, ôte Seigneur, ôte toutes ces choses qui nous enlèvent notre foi, qui nous empêchent de saisir ta grâce, parce que ta grâce est disponible dans ta présence. Tu n'es pas fatigué, tu n'as pas encore pris ta retraite, tu agis encore aujourd'hui, tu délivres aujourd'hui, tu restaures aujourd'hui, tu réconcilies aujourd'hui. bénis. Tu bénis aujourd'hui. Fais-le, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, à cause de ton amour, à cause de ton amour, dans le nom de Jésus. Amen.